Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de 20 000 lieues sous les murs.
20 000 lieues sous les
murs.
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 Aujourd'hui, je suis en présence de l'artiste Tommy Thomas, qui est actuellement en résidence au sein du Crous universitaire et de l'UPJV. Cette interview vient en complément de l'émission Post-it, condensée d'infos étudiantes, pour laquelle Elena et Sarah, en service civique au Crous et à l'UPJV, au S2C, ont déjà interviewé l'artiste Tommy Thomas, ainsi que Dominique Semren du Crous et Alice Fucci du S2C à l'UPJV. Je vous conseille bien évidemment d'aller écouter l'émission Post-it, qui est une très bonne base de présentation de la résidence, puisque nous avons les intervenants qui expliquent directement en quoi consiste la résidence UPJV, en tout cas cette résidence artistique. Et vous avez en plus à la fin de l'émission un ancien étudiant qui revient sur son expérience de résidence sur l'année dernière. Donc cette résidence artistique cette année est autour de l'art urbain, c'est la 4e édition. Donc la première est autour de la photo, la seconde autour de la poésie et la troisième l'année dernière autour du numérique. C'est une résidence qui a pour politique l'échange et la création et qui est ouverte sur le monde. Donc artistiquement, ça vous permet de découvrir plusieurs techniques, plusieurs mondes artistiques. Elle favorise les échanges entre les étudiants de différents horizons. C'est une résidence qui est ouverte à tous les étudiants de l'UPJV et qui permet une ouverture générale sur l'art. Cette résidence, cette année, d'art urbain, prend place aussi avec de nombreux partenaires et notamment le Festival Iconique qui va pouvoir voir une des restitutions de cette résidence. Ces résidences proposent aux étudiants de la création dans le quotidien car il y a 2 séances par semaine. Cette année, la résidence art urbain a débuté le 3 février et se terminera le 27 mars. Les étudiants participent à 2 ateliers par semaine pendant les vacances scolaires et en dehors des vacances scolaires. Cette interview risque d'être un peu longue, donc nous vous présentons une première partie aujourd'hui et une seconde plus tard. Cette interview sera un peu plus basée sur la question de la résidence d'artiste et sur le travail et le statut de l'artiste. Bonjour Alice.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être à ce micro pour cette interview. Alors je vais commencer par te présenter une petite redite. Donc ton nom d'artiste c'est Tommy Thomas, tu es de Nancy. Et tu as réalisé un parcours d'art en architecture et tu es spécialisé en médiation architecturale, si je ne me trompe pas, qui a pour objectif d'intégrer l'architecture, enfin en tout cas de médiatiser l'architecture au quotidien auprès des publics divers et variés. Tu as travaillé au sein d'un collectif d'architecture autour des structures légères. Tu en parles dans l'émission Post-it, mais tu ne donnes pas le nom précis, donc on reviendra, je te reposerai la question un peu plus tard. Elena, dans le premier podcast, te décrivait ton travail comme étant micro-architecture et illustration. Mm-hmm. Tu reviendras aussi dessus. Ton travail, en tout cas, dans l'identification dans le street art, c'est plutôt la technique du pochoir comme prétexte pour créer du lien social. Tu utilises différentes techniques plutôt simples pour être adaptées à plusieurs publics de tout âge. Sur différents travaux. Alice, je te laisse te présenter. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur le peu de choses que j'ai pu dire ? Comment tu définirais ta pratique artistique ? Est-ce que c'est un métier, un travail ou un loisir avant tout ?
Alors, il y avait juste quelque chose, c'est-à-dire un parcours d'art en architecture.
Ok, parcours d'art. Et pas directement en parcours d'architecture ?
Alors, si justement, j'ai pas fait de parcours d'art. C'était vraiment, j'ai fait l'école d'architecture de Nancy. Et à la fin de mes études, dans les 2 dernières années en master, en gros, je me suis spécialisée dans la médiation architecturale, et donc la communication, la valorisation de l'architecture.
Donc comment tu définirais ta pratique artistique ? Est-ce que ce serait un travail, un métier ou encore un loisir ?
Là, je suis un petit peu dans un changement de vie. Donc c'est assez intéressant qu'il y ait ce podcast à ce moment-là, car je viens d'apprendre que j'allais intégrer un nouveau travail. Mais en tout cas, moi, je vis de mon métier, d'un métier passion, quoi, que je considère comme une passion au sortir de mes études. J'ai commencé à être salariée à la Maison de l'architecture de Lyon. C'était une expérience géniale que je considère aussi comme un métier passion. Ça a duré que un an, mais ça a été super comme expérience. Et ensuite, en tant qu'indépendante, effectivement, où on commence à avoir plein de casquettes différentes. Enfin voilà, je pense que toutes les personnes qui se lancent en indépendant se reconnaîtront là-dedans. Mais faut faire de la com, faut faire de l'administratif, faut gérer le juridique, faut faire de la création, faut toujours continuer un élan pour rechercher des appels d'offres, enfin des appels à candidature. Donc c'est vraiment un travail très intense, quoi. Et moi, j'ai fait ça en collectif. En gros, j'ai fait 3 ans de collectif. Donc, on était 4 cofondateurs du collectif qui s'appelle Les Trimardeurs. Mais c'était anciennement le collectif Obo. En fait, on a été pas mal on est sur le devant de la scène, on va dire, de manière assez locale, sur le territoire nancéen. On a été assez reconnus. Et c'était sous le nom du collectif Obo. Okay. Mais maintenant, on n'a plus le droit d'utiliser ce nom. Et c'est devenu le collectif des Trimardeurs qui n'existe plus à l'heure actuelle. Ça a été, on s'est tous séparés à un moment donné. L'expérience, elle a fini. Et moi, à partir de 2021, donc j'ai fait une petite pause de vente de légumes sans aucune charge mentale. Et je me suis dirigée donc en tant qu'indépendante, toujours un métier passion, mais plus seule, jusqu'à maintenant.
Et c'est quoi ta pratique ou ton médium de prédilection dans ton travail ?
Les gens. Je sais que le dessin, j'utilise au quotidien. Je fais des croquis pour tout, parce que j'ai une mémoire vraiment pas fofolle. Et donc, ça m'aide beaucoup à structurer mes pensées, à ne pas me disperser, à me rappeler des moments que je vis. Mais je dirais que je fais ce métier pour l'intensité des rapports humains autour de la création.
Et du coup, est-ce que tu as d'autres activités en parallèle de ce métier passion ou que tu as eu ?
Alors, il faut que tu précises ta question. Parce que,
par exemple, est-ce que tu fais uniquement de la création individuelle ou alors tu fais aussi des ateliers qui sont du coup une autre prestation, on va dire, par rapport à ta pratique ? Tu travailles en collectif ou est-ce que justement, comme tu disais, tu as un job alimentaire à côté pour alimenter du coup le travail artistique ?
Oui, alors j'avais compris que en fait même les ateliers faisaient partie de ce.
Bah, l'atelier du coup c'est pas un travail forcément. Enfin ça fait partie de ton travail artistique, mais ça fait moins partie de ta création artistique, même si ça enrichit ta création personnelle.
Oui, mais du coup tu vois, vu que mon médium c'est les gens, en fait les ateliers pour moi c'est quasiment plus, enfin, et puis c'est sur le même niveau d'intérêt que la création personnelle. Et après, pour avoir mon... Enfin, tu vois, même pendant la résidence à Amiens, en vrai, c'est des ateliers. Mmh. Ma création à moi, elle est secondaire. Ma création, ça va être de savoir guider les étudiants et de proposer aussi quelques-unes de mes refs, je pense, pour le projet final. Mais après, je pense aussi à un espace de liberté que j'ai et que je garderai même quand je serai salariée. Disons, imaginons que je change un jour de vie. Voilà. Je produis des illustrations pour mon plaisir. Et là, j'ai aucun compte à rendre à personne. C'est vraiment mon univers. Et voilà.
Tu ne le fais pas exclusivement pour de la vente ou comme ça. Tu le fais vraiment pour la production artistique pure.
Je le fais pour m'immerger pendant 4 jours, 2 semaines dans des dessins où j'ai envie d'exprimer certaines choses. Et c'est parce qu'un jour, ça a marché. J'ai fait un marché de Noël et vraiment, j'ai super bien vendu. Enfin, j'ai l'impression que ça avait parlé aux gens. On était la première surprise que, effectivement, je me suis dit, bon, si je peux mettre du beurre dans les épinards avec ce projet qui me fait kiffer... Je le fais, mais j'avoue que ces derniers temps, j'ai un tout petit peu moins d'espace pour, enfin de temps et d'espace mental pour avoir ce temps d'une semaine non-stop à plonger dans ces dessins.
Et donc, quand tu travailles en individuel, tu travailles surtout de l'illustration, et quand tu es avec des groupes, justement avec des gens, comment tu procèdes ?
Alors, avec des gens, ça va être. En fait, je suis dans un tiers-lieu à Nancy. depuis quelques temps maintenant.
Ça allait être ma prochaine question, donc c'est parfait.
Ça mêle les deux, je pense. Mais en gros, c'est assez facile de créer des collaborations. Je ne fais plus partie de collectif et honnêtement, pour l'instant, je ne me vois pas retourner dans un collectif parce que je pense que c'est assez c'est très intense à gérer humainement. Et donc, j'aime beaucoup cette espèce d'organisation où je suis seule, je vais rejoindre d'autres personnes sur des projets. Ça va être hyper intense pendant un mois, deux mois, trois mois. Et puis après, pouf, on va se séparer, on va trouver d'autres collabs chacun de notre côté. J'aime beaucoup ce modèle-là. Après, en l'occurrence, quand je fais des collaborations, souvent, c'est quand les fresques sont vraiment... quand c'est des gros projets de fresques. Et souvent, c'est quand c'est mêlé aussi à de la construction. Parce que j'ai des partenaires maintenant qui ont des ateliers bois avec tout le matériel nécessaire, etc.
Et du coup, ça, c'est la partie que tu travailles le plus avec le public, la construction et en volume ou autre. Tu ne fais pas forcément d'illustration ou fresque, tu vois, construction et fresque.
Alors, avec le public, quand je fais des ateliers, j'aime bien être toute seule, mener ma barque, parce que maintenant, j'ai une petite manière de procéder. Mais souvent, avec les chantiers participatifs, à l'époque du collectif, je faisais du mobilier urbain et des fresques en chantier participatif. Et là, depuis que je suis seule à bord, on va dire depuis 2021, donc, je ne fais plus que des fresques et des installations artistiques en chantier participatif.
Okay. Et du coup, ma prochaine question, c'était as-tu un lieu dédié à ton travail ? Donc là, effectivement, tu es en tiers-lieu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Donc un tiers-lieu, généralement, c'est un lieu où on regroupe plusieurs artistes. Mmh. Vous êtes combien ? C'est quoi l'espace que tu as ? Quel matériel tu as à ta disposition ? Et comment vous êtes organisé ?
Alors, c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas franchement un tiers-lieu. En fait, le tiers-lieu est tellement jeune qu'il se questionne encore sur est-ce que c'est plus une pépinière d'entreprise ou un tiers-lieu ? Et donc, c'est un gros sujet. Mais moi, j'ai la chance d'être sur un plateau partagé avec différents illustrateurs, illustratrices. J'ai 20 mètres carrés. Je paye pas grand-chose. Je paye 105 euros par mois. Voilà. Ce qui n'est vraiment pas grand-chose. J'ai accès à des locaux assez fous. C'était des anciens abattoirs. Donc, c'est des petites halles de marché quoi, qui ont été réhabilitées. J'ai accès à... Donc, on est combien dans tout ça ? En fait, c'est un site qui est très grand. Hein. C'était un ancien site industriel, du coup. Allez, on doit être une trentaine en tout.
Et c'est quoi le nom du tiers-lieu, du coup ? Si vous en avez un.
J'oublie de dire les noms. C'est l'Octroi.
OK.
À Nancy. L'Octroi, c'est l'impôt. Voilà, et c'est, en gros, c'est... Il y avait une taxe pour les... Ouais. Les animaux.
Les pièces de boucherie ou des choses comme ça, j'imagine. Ça.
Du coup, c'est l'octroi. Okay.
Et combien de temps par semaine tu dédies à ton travail artistique ? En dehors de tout ce qui est administratif, recherche de projets ou autre. Vraiment la création brute.
Est-ce que tu comptes la création des cours, par exemple, ou des ateliers ? Parce que moi, je considère ça comme du travail créatif.
Bah dans ce cas-là, on peut rediviser. Quel est ton temps dédié à ton travail créatif personnel, où tu crées par exemple une illustration juste pour toi ou en comptant le travail préparatoire et après c'est vrai que si tu dissocies pas ton travail d'illustratrice, on va dire,
oui,
des ateliers, bah, mets tout dans le même sac. Hein.
Ouais, je dissocie plus maintenant parce qu'en fait c'est trop difficile. Ça dépend vraiment des périodes, mais pour donner un ordre d'idée, donc on va dire que la création, la conception d'atelier, ça l'est ou ça l'est pas?
Ouais, on peut compter dans le travail artistique. Ouais.
Franchement, moi, je suis vraiment nulle en administratif. Je fais pas le taf qu'il faudrait, comme beaucoup, je pense. Enfin, tu vois, je pense que je devrais passer beaucoup plus de temps à savoir quel est le statut qui serait le mieux, quel est ceci, cela. Donc moi, je vais te dire honnêtement, maintenant, j'ai l'impression que je suis sur du 80% de création. Encore.
Et 7 jours sur 7, du coup ?
Non, maintenant j'essaye de me prendre des week-ends, mais c'est vrai que là, par exemple, en milieu de résidence, je sens que je travaillerai 7 jours sur 7, ouais. Et après, je dis ça, c'est parce qu'en ce moment, j'ai une certaine sécurité puisque je vais intégrer un nouveau travail et que j'ai pas des appels à candidature à faire, que j'ai beaucoup moins de... Voilà, de...
Et tu te libères moins de temps pour la tâche administrative, du coup. Exactement. Ce qui donne plus de temps pour la pratique artistique.
Exactement. Là, c'est vraiment pas représentatif. Je pense que je suis pas dans un moment représentatif d'une pratique générale, quoi.
Tu le disais juste avant, mais tu préfères travailler maintenant en individuel plutôt qu'en groupe ou en collectif, la plupart du temps. Est-ce qu'il y avait un apport à travailler en collectif ? En tout cas, en tiers-lieu, on peut quand même dire que tu es dans un environnement collectif. Est-ce qu'il y a un apport à ce travail-là, dans ton travail, enfin dans ta recherche ?
En fait, juste, je rectifie, c'est pas tellement le collectif qui me refroidit. Alors, un petit peu, j'aime bien alterner. C'est plus le fait de mener, en fait, d'avoir une entreprise à quatre, de gérer une structure à plusieurs. Je sais que là, je voudrais pas retourner dans ce type d'aventure. En revanche, un travail collectif, mais tout en étant tous indépendants, j'adore. Et puis il faut alterner avec le fait d'être seul, mais j'adore. Et ta deuxième question, c'était qu'est-ce que ça t'apporte
Qu'est-ce que ça t'apporte ? Est-ce que ça enrichit artistiquement si tes collègues artistes autour de toi n'ont pas la même pratique ou même une autre vision, même le même style ou...
Ouais.
Est-ce que ça fait des vases communicants au niveau des projets, tu vois ? Est-ce que ça t'inspire certaines choses ou illustrations ?
Oui, forcément, ça, c'est un partage. En fait, on se nourrit de ce que l'autre nous apporte. Et en fait, je vois vraiment ça comme une digestion. Ça, on le digère et ça fait partie un peu de nous, quoi. Et c'est toujours génial de pouvoir travailler avec des gens qui ont un autre regard sur les choses. Là, je pense à plusieurs personnes avec qui j'ai travaillé récemment. Une jeune artiste qui débute et qui a 24 ans. Et en fait, je n'avais pas anticipé ça, mais elle m'a insufflé vachement un regard de la personne qui commence la pratique artistique. Et ça m'a vraiment... c'était un vent de fraîcheur, quoi. Et je m'attendais pas du tout à recevoir ça. Et ça, il y a eu un côté où ça m'a vachement motivée, tandis que moi, je lui ai apporté peut-être... mon expérience, peut-être de la technique aussi, de la technique, voilà. Donc ça a été vraiment un échange hyper bénéfique. Je pense que c'est inévitable, en fait, de se rencontrer sur des projets, quoi. Enfin, ça, moi, ça me semble inévitable.
Et sur les projets, là, on va passer...
Pardon, indispensable, ouais. Pas inévitable, indispensable.
Inévitable, ça peut l'être aussi, par exemple, quand tu es un artiste, tu bosses solo dans ton atelier, ouais. Et qu'en fait, tu te nourris des visuels extérieurs, de ce que tu vois, mais la communication est vraiment un truc tout bête, mais la vie en communauté, en temps partiel, on va dire, ça... T'es pas avec des personnes qui ont le même rythme que toi, les mêmes idées, mais les mêmes inspirations, la même façon de travailler. Ça peut être inévitable aussi.
Oui, exactement. Ouais.
Et avant de passer sur la partie du coup résidence, quel projet t'as pu réaliser aussi avec des groupes de public qui pourraient ressembler à un travail de groupe sur, pas une longue durée, mais un atelier prolongé par exemple ?
Ça peut être une autre résidence ?
Après j'allais te poser la question si tu avais fait d'autres résidences, mais ouais, bien sûr.
Bon, alors, je vais pas parler de la résidence. Récemment, j'ai fait des ateliers pendant une semaine, non-stop, donc c'était 2 heures par jour, tous les jours pendant 5 jours, avec un public de seniors en résidence autonome, on va dire en EHPAD, mais avec des personnes qui ont encore, qui ont plus
la mobilité,
qui ont plus de mobilité, de dextérité, voilà, qui sont plus autonomes tout simplement, et des enfants en centre aéré. Et donc l'idée c'était de faire une création, une installation artistique lumineuse comme ça dans la rue, qui parlait aussi du quartier. Pareil, il y avait plein de thématiques abordées du coup, à la fois de l'archi, de l'artistique, le patrimoine. Ça a été très riche pendant une semaine. Et pareil, la mayonnaise a pris. Et vraiment, deux groupes. Alors, ils m'ont tous dit à la fin, oui, on n'aurait pas pu faire plus de 5 jours. Hein. C'est fatigant, les jeunes. Hein. Mais je voyais, enfin, tous les jours, il me disait, ah là là, mais qu'est-ce que c'est bien de voir de la jeunesse. Et je pense que les jeunes, ils trouvaient ça assez, assez fun, ça les faisait aussi rigoler de voir voilà, des papis, mamies. Je pense que ça va leur parler peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et là, encore une fois, voilà, ce que je retiens, c'est, alors, il y a eu l'installation artistique, c'était chouette, mais je retiens vraiment l'émulsion du groupe, quoi.
Du coup, on passe à la partie des questions plus sur la résidence. Est-ce que tu as déjà réalisé des résidences courtes, donc, ou plus longues? Là, par exemple, celle que tu es en train de réaliser autour de la Rubin, c'est 2 mois. Je considère que c'est une résidence longue. Courte, ça peut être une semaine, un été, ou vraiment tu es dédié à, dans un lieu spécifique à 100% de ton travail, tu vois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé?
Malheureusement, non. J'aurais rêvé être immergée. Bah, j'ai fait pas mal d'appels à candidature, notamment je pense à un appel à candidature à Saint-Malo ou en Bretagne, dans des châteaux perdus pour pouvoir faire l'inventaire des espèces et créer un projet créatif. Pareil, il y a des refuges dans les Pyrénées, tu restes quelques temps. J'aurais vraiment adoré. Ça ne s'est jamais passé. Après, je suis en train de réfléchir un petit peu à tout ça. Malheureusement, j'ai menti sans le vouloir. J'ai déjà fait une résidence de 2 mois, mais c'était à Nancy. Donc, si tu veux, je n'étais pas en immersion, voilà, mais c'était quand même en primaire où on a fait un projet entre, toujours pareil, architecture, patrimoine, voilà, bâti et non bâti, avec les enfants pour se questionner un peu de l'héritage du quartier Art Nouveau à Nancy. Il s'en est d'ailleurs suivi une grande fresque dans l'école, c'était trop chouette. Et ça, c'était pendant 2 mois.
Okay. C'était un projet porté par juste la structure de l'école ou...
La ville.
La ville,
c'était
okay.
En type CTEAC. Oui. Coup, je sais pas si...
Ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc, EAC, c'est éducation artistique et culturelle.
Et il y a aussi une résidence dont je me rappelle qui était trop chouette aussi. Ça, c'était à Besançon pour le festival Bien Urbain. Et en fait, on est resté, donc on était à 4 avec mes 3 compères du collectif. On est resté pendant, je crois que c'était 1 semaine, dans un des forts de Besançon pour créer du mobilier urbain sur une place publique avec des ateliers, des workshops, etc. Avec l'association Justicie, enfin, ça met les graphismes, architecture légère, ateliers participatifs. Et j'en ai un souvenir incroyable.
Par rapport à Amiens, donc, pourquoi avoir candidaté à cette résidence-là? En quoi ça t'a attiré et quels ont été tes objectifs en postulant?
Alors, c'est ma sœur qui habite à Amiens qui m'a envoyé la candidature et j'en lis pas mal des candidatures, voilà, de résidence ou de projet. Et là, je me rappelle très bien que je m'étais dit, on dirait vraiment que c'est fait pour moi. Ça n'arrive pas non plus si souvent que ça. Moi, ça ne m'arrive pas non plus si souvent que ça. Ça mêlait médiation architecturale, donc la pratique de l'art dans la rue, pardon, du street art, mais avec plein de techniques différentes. Il n'y avait rien de très précis, mais en même temps, on comprenait qu'il y avait une forte envie de médiation avec quelqu'un qui pouvait parler à la fois de patrimoine, d'archi, de street art, convoquer aussi. Enfin, j'avais l'impression que c'était un petit peu être... ouais, mener un petit peu tout ça en étant un peu chef d'orchestre, ben un peu comme un architecte le ferait avec un projet, tu vois. Et je sais pas, ça m'a vraiment, je me suis vraiment dit que c'était pour moi. Et ça n'a pas loupé. Et dans la question de ce que je comptais apporter, moi je me rappelle très bien que j'avais eu cette sensation que c'était les étudiants, justement, d'abord. C'était vraiment pour eux que cette résidence était faite. Je crois que c'est pour ça qu'on m'a sélectionnée également. Et en vrai, je pense que j'ai bien fait comprendre que l'objectif de cette résidence, c'était d'observer, de découvrir, de découvrir le street art ensemble, de comprendre son histoire, de tester des techniques, mais que je me plaçais bien au service des étudiants et que c'était eux qui allaient guider ce qu'on allait faire ensemble.
Quelle est ta notion de l'urbain et comment ça s'insère dans ta pratique artistique? En tout cas, dans le street art, la notion de street art large. Quel est ton rapport par rapport au moins à l'art urbain? Parce que du coup, on différencie l'art urbain du street art. Ouais. Street art, vraiment, moi, j'entends plutôt street art comme étant graffiti, ouais, tag, fresque. Et art urbain, ça peut être aussi art sur le mobilier, et, un peu plus détournement. Voilà.
Ok.
Donc, plutôt, c'est quoi ton rapport à l'art urbain? Et ensuite, comment ta pratique s'insère dans plus la partie street art?
Je vais essayer d'être concise. Donc moi j'ai un diplôme d'architecte et donc pendant 6 ans j'ai un peu redoublé. Pendant 6 ans j'ai la ville, l'architecture a été mon sujet d'étude. Le plan, la rue, l'espace public, surtout quand en plus voilà, moi j'ai choisi des options par rapport à l'espace public, c'était ce qui m'intéressait. Donc je pense que déjà ça amène vraiment à un espèce de prisme particulier. Ensuite, ma vision de l'art urbain, j'ai plusieurs souvenirs comme ça où je me rappelle au Brésil, lors de mon échange universitaire, j'avais pris des bombes. Enfin, il y avait un festival de graffeurs mondiaux et je me rappelle que j'avais demandé si je pouvais graffer moi aussi sur un mur parce que j'aimais trop dessiner et que je me suis voilà que j'ai tenté et donc j'ai plein d'espèces de petits souvenirs comme ça un petit peu au culot ou à voilà je me suis retrouvée dans des situations avec bah, souvent des mecs par hasard à peindre sur les murs de ma ville la petite ceinture à Paris aussi où j'avais dessiné une baleine qui pète de l'or. Ce genre de petits croquis voilà où on se rend pas compte sur le coup que ça amène à un espèce de fil conducteur et en fait finalement, en parallèle, l'objet de mon travail, ça a été le patrimoine, donc l'architecture et donc aussi la rue, en quelque sorte, tu vois, les éléments que l'on voit dans l'espace public. Et puis tout ça, ça s'est concrétisé par une fresque voilà, commandée par la ville. Donc c'était quand même un truc assez gros, hein. C'était 75 mètres carrés quand même, sur un des parcs les plus mis en valeur de la ville. Et là, on est resté avec un graffeur à peindre pendant une semaine dans la rue, avec l'objet de la peinture, c'était les formes architecturales. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu un espèce de truc un peu rigolo dans ma pratique, c'est que non seulement ben, je peins dans l'espace public, mais que ce que je dessine, c'est les choses qui sont dans l'espace public. Et juste une dernière chose, mon rapport à l'art urbain, je sais qu'à chaque fois que j'ai fait ce type d'expérience, de rester dans la rue plusieurs jours d'affilée pour des chantiers, il y a vraiment quelque chose qui se passe. En moi, il y a vraiment, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas encore trop réfléchi, mais ouais, j'adore.
Il y a un côté de liberté et d'échange qui se fait assez naturellement quand tu peins dans la rue, avec les gens qui passent ou même les artistes. Ouais. Et cette liberté de pouvoir dessiner aussi sur... un support soit donné lors d'un festival ou autre, mais c'est une autre façon d'exposer aussi ton art. Mais moi, je trouve c'est il y a ça qui ressort beaucoup dans le street art.
Ben ouais, mais en fait, moi, j'ai vraiment pas ce truc. Enfin, j'aime bien peindre dans la. Enfin, comment dire? Je vais essayer d'être concise, mais en gros, je crois que ce que j'adore, c'est que j'ai l'impression que tu croises tout type de personnes et que ouais, c'est le partage avec les gens, c'est trop marrant en fait. Franchement, moi j'ai passé. Alors c'est fatigant, tu veux une semaine de chantier, mais moi je suis sortie rincée de là et j'avais plus envie qu'on me parle pendant un jour, tu vois. Mais t'as des remarques de petits vieux. En fait, il y a des gens, c'est hyper mixte. Et ce que j'adore, c'est que c'est encore l'espace public. C'est un espace qui est encore, j'espère qu'il le sera encore, mais pas cloisonné. Et donc, tu vois, tu rencontres n'importe qui, n'importe quand. T'es vraiment dans l'effervescence de la rue, quoi.
Bah c'est ça, le fait que ce soit pas un lieu dédié à l'art, une galerie, un musée, un centre social qui fasse. En fait, le fait d'être dans la rue, t'as un public beaucoup plus large et qui vient interagir sans qu'on lui demande son avis. Donc que ce soit positif ou pas, t'as des gens qui passent, qui prennent juste des photos discrètement, qui vont en parler derrière. T'as ceux qui viennent vraiment tenir la jambe pendant 1 heure, 2 heures. où t'avances pas, du coup. Ouais, mais non, c'est hyper enrichissant. Et c'est vrai que la rue, c'est un autre lieu. Ça reste vraiment l'espace public avant d'être un espace d'exposition ou de travail.
Ouais.
C'est un lieu de passage, vraiment. Tout le monde passe à un rythme différent, à une vision, une observation différente.
Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc, on ne parle pas du risque, puisque là, la commande était publique. Donc, je ne parle même pas du risque de ce voilà, de côté subversif et tout, qui peut être ultra enivrant. Mais je parle aussi, il y a un risque à ce que les gens te disent mais c'est moche, mais j'aime pas. Et en fait, j'adore ce risque-là. J'adore, tu vas me dire, franchement, ça peut... En fait, tu réagis, je sais pas, ça te fait te sentir vivant, d'être un peu un miroir à ce que veulent dire. Nous, on a eu peut-être 100 personnes qui nous ont parlé pendant une journée, tu vois. Et en fait, j'adore me dire, voilà, là, ça se trouve, ça va être un super compliment, ça se trouve, ça va être une remarque hyper intéressante, ça se trouve, ça va être quelqu'un qui en a rien à faire. Voilà, c'est une autre forme de risque, tu vois, c'est vraiment...
Justement, le fait d'être dans la rue, c'est... Tu parles de risque, mais moi, je ne le dirais pas comme ça, mais par exemple, quand tu produis une œuvre, une illustration, la personne qui va l'acheter va faire le choix, parce qu'elle l'apprécie, alors que dans la rue, quand l'artiste fait son œuvre, après, elle ne lui appartient plus, elle appartient au public, et donc forcément, les goûts et les couleurs, tout le monde en a des différents. Et justement, je trouve ça, c'est des bons retours. Parce que tu fais un marché où tu présentes ton œuvre, il n'y a personne qui va venir te dire « j'aime pas votre travail ». Enfin, c'est moins ouvert au niveau du dialogue. Il y a vraiment ce dialogue où les gens se permettent plus. Parce que, est-ce que c'est parce que c'est du street art ? Est-ce que parce que c'est subversif ou... Ça, à voir, je pense qu'il y a plein de pistes différentes. Mais c'est vrai que c'est vraiment un des points qui revient le plus avec les graffeurs, les street artistes. C'est les gens qui passent derrière, c'est hyper intéressant. Ce qu'ils disent ou ce qu'ils disent pas, hein, juste le fait d'échanger par la présence ou quoi, qu'ils soient vieux, jeunes.
Oui, et puis moi, franchement, les remarques que j'ai eues, honnêtement, pour cette fresque-là, donc il y a eu plusieurs fresques, je vais parler de celle-là, mais on a eu vraiment quasiment que des compliments. Les gens nous ont fait des super compliments. Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a touchée, que je retiendrai toute ma vie. C'est qu'on m'a dit « Ah, vous avez vraiment réussi à capter l'essence de notre quartier. Merci. » Enfin, des remerciements. J'étais là, c'est mon métier, en fait. Trop cool, mais c'est... Enfin, voilà. Et par contre, il y a une dame, sur les peut-être allez, 500 personnes qui nous ont parlé, il y a une dame qui a dit « Oh là là, c'est moche. Oh, ce bleu, c'est moche. » Et en fait, j'étais trop contente. Qui est quelqu'un qui me donne son avis en disant bah, moi je suis pas d'accord avec toutes ces fresques que j'aime pas dans la ville. Et moi je trouve que ces remarques elles ont leur place en fait. Bah ouais, les gens ils choisissent pas. Et en vrai, moi je sais qu'il y a certains projets de fresques. Si à chaque fois que je sortais de ma maison, je voyais cette fresque qui me parle pas du tout, avec laquelle je suis même pas forcément en accord, voilà, tu vois, sur ce que ça veut dire, ben je serais vénère. Et puis, bon, moi, je ne le dirai pas parce que il y a un côté, voilà, tu respectes aussi ce que les autres font. Mais en fait, je comprends et je trouve ça très touchant d'une certaine manière. Je l'attends même, cette personne qui va dire « j'aime pas
». Et du coup, là, on parle de cette fresque-là. C'était à Nancy ?
Ouais.
Ouais. Alors, tu m'as dit que c'est dans le parc ?
Sainte-Marie.
OK.
Sur l'entrée... une des entrées du parc Sainte-Marie.
Ok. Elle est toujours visible aujourd'hui.
Ouais.
Et c'était quand? C'était quelle date
2023 déjà.
Ah oui, ça va, c'est pas loin.
Ouais.
C'est mais... 2 ans.
Ouais, mais bon. 2 ans et demi.
Ouais. Vous venez d'écouter la première partie de ce podcast avec l'artiste Tommy Thomas. Retrouvez la suite dans le prochain épisode. D'ici là, on vous dit à bientôt et merci pour votre écoute. Au revoir.
Mur. 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 Mur.